Je ne vous apprends rien ce matin en disant que nous vivons des temps troubles, des temps compliqués. Les crises s'enchaînent. Il serait facile de nous laisser envahir par la peur. Peur de la guerre, peur de l'avenir. Dans une étude récente des top 10 des peurs des Français, il y avait les classiques. La peur de la mort, la peur de perdre un être cher. Mais aussi, il y avait par exemple la peur de la socialisation, la peur de l'engagement. Et je pense pour nous tous, on se dit, si je pouvais surmonter telle ou telle peur dans ma vie, en ce moment, je serais une meilleure personne. Eh bien, ce matin, nous allons commencer une nouvelle série dans un livre de la Bible qui va nous aider, le livre de Josué. Nous avons en Église étudié l'Évangile selon Matthieu depuis janvier jusqu'à Pâques et pour entrecouper un long Évangile comme celui de Matthieu et pour varier aussi les enseignements dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, nous allons faire une pause avec Matthieu et passer quelques semaines dans le livre de Josué. Et ce matin, je vous lis donc le début, chapitre 1, si vous voulez chercher avec moi Josué chapitre 1, nous allons lire tout le chapitre. Lisons ensemble Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays, vos femmes, vos petits-enfants, vos troupeaux resteront dans le pays que vous ont donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Alors de quoi parle ce chapitre ? Ben si, je pense que vous l'avez remarqué, mais au cas où vous ne l'avez pas remarqué, reprenons ce verset qui revient constamment. Verset 6, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi et aie bon courage. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Et si nous avons raté le message, le dernier verset du chapitre termine de la même façon, seulement fortifie-toi et prends courage. C'est un appel adressé à Josué. Et pendant les quelques semaines que nous allons étudier ce livre et ce personnage, oui, nous allons devoir nous rappeler que nous ne sommes pas exactement dans la même situation que lui. que nous n'avons pas reçu exactement la même mission de la conquête militaire d'un pays, d'un endroit géographique. Nous allons aussi devoir nous rappeler que Josué, qui a le même prénom que Jésus, Josué et Jésus, même prénom, Josué est souvent plus une image de Jésus que du chrétien individuel, Jésus qui conduit son peuple dans la victoire. Et pourtant, il y a bien des leçons sur la foi dans ce chapitre, dans ce livre. Et le Nouveau Testament cite ce passage pour nous appeler à vivre notre foi face aux défis de la vie et notamment à ne pas avoir peur. L'Épître aux Hébreux cite ce passage, notamment le verset « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». L'Épître aux Hébreux cite ça pour chaque chrétien, notamment pour faire face aux soucis d'argent, par exemple. Les soucis d'argent, les inquiétudes matérielles, l'Épître aux Hébreux dit « Regarde à Jésus ». Donc la prochaine fois que vous êtes à la pompe à essence, l'Épître aux Hébreux dit qu'il faut regarder à Josué et vous rappeler « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Oui, dans ce passage, nous allons voir que en fait, cet appel au courage est aussi un appel à la foi. Le courage et la foi en Dieu sont essentiellement la même chose. Le courage, comme la peur, révèle où nous avons placé notre foi. Donc c'est l'appel à Josué de placer sa foi en Dieu et de surmonter la peur et vivre une vie courageuse. Et cet appel à Josué est un appel qui se répète à travers la Bible. Mais justement, l'époque de la personne de Josué et l'époque de Josué, peut-être un des meilleurs exemples d'un homme, d'un peuple qui ont agi avec foi, avec courage, et qui nous entraîne aussi à vivre cette foi. Donc, ce matin, j'aimerais vanter les mérites du courage comme vertu chrétienne, comme une part essentielle à la foi. La force du courage et le Dieu fidèle. Donc ce matin, nous allons voir ce courage, pourquoi il en vaut et comment l'avoir. Donc tout d'abord, le courage, pourquoi il en faut. Tout d'abord, il faut du courage pour faire face à un nouveau chapitre dans la vie, un changement de vie, comme Josué, comme le peuple vit ici suite à la mort de Moïse. Verset 1 dresse, on rappelle qu'effectivement, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le peuple avec la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort ». Donc ici, c'est vraiment le passage de témoin entre Moïse comme conducteur du peuple et puis Josué, que nous avons rencontré dans les livres de Moïse, l'assistant de Moïse qui avait déjà servi aux côtés de lui, qui a déjà montré une foi, une fidélité. Mais maintenant, Moïse est mort et c'est Josué qui devient le leader, le conducteur du peuple. Mais on se met à sa place et ça ne doit pas être évident. Jusque-là, il était son assistant, c'était pratique. Moïse qui dirigeait, Josué qui l'aidait. Mais maintenant, Moïse n'est plus là. Moïse, celui qui a ouvert la mer Rouge. Moïse, celui qui a tenu tête à Pharaon. Moïse qui a fait pleuvoir le pain. Moïse qui a parlé face à face à Dieu. Ce Moïse-là n'est plus là. Et on comprend que pour Josué et pour tout le peuple autour de lui, ils peuvent se sentir angoissés, déstabilisés, abandonnés. Il y a plus Moïse. Et il y a ce changement majeur, un nouveau chapitre dans la vie. Et c'est dans ces situations-là que oui, il faut du courage. Vous le savez, la vie est remplie de changements. Mais une première grande leçon de ce chapitre, c'est si, même si la vie change et les personnes changent, Dieu ne change pas. Et c'est ça qui nous permet d'avancer avec courage. Et il va rappeler constamment à Josué, en fait, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Donc Moïse, c'est ça qui a changé. La présence de Moïse, ça change. Mais Dieu, c'est ça qui ne change pas. Et c'est la clé du courage. Vous savez, certains jeunes enfants aiment bien avoir un doudou. Ça rassure. Ça permet de se sentir en sécurité. Ça permet de vivre une petite séparation avec tes parents. Mais à un moment, il faut lâcher le doudou. Ça se fait pas trop d'aller à son premier entretien d'embauche avec son doudou. Des fois, on aimerait bien, mais ça se fait pas. Et en réalité, nous avons tous nos doudous spirituels. En tout cas, des cadres, des personnes, des appuis, des situations où on se dit, là, ça va, je peux, Ça, je comprends, ça, je maîtrise. Moïse est là, tout va bien, je peux servir à ma façon. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand cet appui, ce soutien, cette personne, ce cadre confortable n'est plus là? Et on se dit, ah non, ça, j'aurais trop peur de fonctionner autrement. Mais en fait, Dieu s'arrange. Il veut nous faire progresser, maturer, grandir. Il s'arrange pour enlever un peu nos doudous, pour être sûr que notre foi, notre force est en lui. Donc oui, vous allez, je pense que constamment, vous allez vivre des changements de situation, des nouveaux chapitres dans la vie. Et c'est l'occasion d'examiner un peu là où vous avez placé la foi. La peur est une grande révélatrice de l'objet de notre foi. Et même si vous n'êtes pas exactement dans la même situation que Josué, peut-être ce matin, très probablement ce matin, vous avez besoin de courage pour faire face à une nouvelle saison de vie, un nouveau défi, un changement, un nouveau travail, un nouveau poste, un déménagement. Je pense à un jeune qui quitte le domicile pour continuer ses études ou son travail ailleurs. Un peu comme Josué, ça peut être aussi suite à un deuil, la perte d'un être cher. Josué a perdu Moïse, en quelque sorte, son ami, son mentor, son ami. Suite à un deuil, suite à une maladie qui se déclare, suite à une épreuve qui ouvre un nouveau chapitre dans votre vie. Ça, il y en aura toujours. Et dans ces moments, on peut s'enfermer dans la peur. Où on peut reconnaître qu'on a besoin de courage pour avancer comme Josué. Et ce Dieu qui était avec Moïse sera avec Josué. Le Dieu qui était avec Josué sera avec nous. Donc oui, il faut du courage, tout d'abord, face à des nouveaux chapitres, des changements dans la vie. Il faut aussi du courage pour Josué pour entrer dans le pays promis. Josué aurait besoin de courage pour sa mission particulière d'entrer et de conquérir le pays. Je rappelle que le peuple se trouve donc à l'extérieur du pays, à l'est du Jourdain. Il se trouve à un endroit qui s'appelle Sittim. Mais il voit le Jourdain et en face, c'est le pays promis. Et donc, d'où l'appel, verset 2. « Ok, maintenant, lève-toi. » Passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays promis. Mais pour ça, il va falloir du courage. Parce que la dernière fois que Josué avait vu ce pays, il était plutôt au sud et pas à l'est, mais la dernière fois que Josué avait vu ce pays, il s'était avec des espions, avec 11 collègues espions, et ils ont vu un beau pays, mais ils sont revenus, et la plupart des espions, 10 parmi les 12, avaient dit... C'est trop difficile, ils avaient trop peur. Je vous lis nombre 13, c'est le rapport des espions. La première fois qu'ils avaient vu le pays promis, ils ont dit « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Donc là, maintenant, 40 plus tard, ils sont à peu près au même stade. Mais les géants sont toujours là, les murailles sont toujours là. Rien n'a changé. Mais Josué, comme Caleb à l'époque, ils avaient dit, mais non, ce n'est pas un problème pour notre Dieu. Mais il fallait du courage pour déjà ne pas aller avec toute la foule. La majorité a dit, non, on retourne en Égypte, il vaut mieux avoir peur. Il n'y avait que deux personnes qui ont dit, non, il ne faut pas avoir peur. Donc, déjà, il faut du courage pour être la voix qui dit, non, on ne va pas avoir peur. Mais Jésus l'a été, et maintenant, il va falloir un peu encore du courage pour entrer dans le pays promis, où il y a encore les géants et tout ça. Mais Josué peut se dire, voilà, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, il peut nous faire entrer dans le pays de Canaan. Égypte, c'était encore beaucoup plus puissant, plus grandiose, plus fort que le pays de Canaan. Si Dieu nous a sortis d'Égypte, il peut nous faire entrer dans le pays promis. Je prends quelques instants pour rappeler un peu comment appliquer ces passages à nos vies dans le Nouveau Testament. Nous n'avons pas, nous, reçu la promesse de fouler à pied un terre pour le recevoir. Donc, n'allez pas à Toulouse faire une promenade en disant « j'ai la promesse que si je foule au pied Toulouse, Dieu va me le donner, c'est à moi ». Mais tout ça devient des images de notre salut. L'Ancien Testament donne plusieurs images du salut par grâce en Jésus-Christ. La sortie d'Égypte est une des plus grandes, avec des thèmes de rédemption, de libération de l'esclave. Donc la sortie de l'Égypte est une grande image de notre salut en Jésus-Christ, la manière que Jésus, l'agneau pascal, nous rachète de l'esclavage et nous sort d'une tyrannie du mal et du péché pour nous libérer. Ça, c'est une grande image de la sortie d'Égypte. L'entrée dans le pays promis du temps de Josué est encore une image de notre salut en Jésus-Christ, avec peut-être d'autres facettes. La sortie d'Égypte rappelle la rédemption, rappelle l'esclavage au péché. L'entrée en pays promis rappelle d'autres facettes de notre salut, et nous voyons à travers ce livre Josué, et notamment comment cela est interprété dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, le salut est comme un repos dans lequel Dieu nous fait entrer. C'est déjà le mot qui revient plusieurs fois dans notre passage. L'Éternel, votre Dieu, vous accorde du repos. C'est-à-dire l'entrée dans le pays promis est comme un repos. Ou le pays promis est comme un héritage. Donc, autant la sortie d'Égypte, c'était des images de rédemption. Ici, c'est les images de repos, d'héritage, qui nous aident à comprendre le salut gratuit en Jésus-Christ. Le salut que nous recevons en Jésus-Christ est comme un repos que Dieu promet, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'œuvrer, de mériter notre salut, c'est un cadeau reposant que Dieu nous fait, ce salut, parce que Jésus a travaillé à notre place. Ou bien c'est comme un héritage que nous recevons. Quand vous recevez un héritage, ce n'est pas que vous l'avez mérité, c'est juste les richesses de quelqu'un d'autre, peut-être d'un parent, un proche, ces richesses vous sont données, vous sont accordées. C'est ça le salut en Jésus-Christ, les richesses de Jésus nous sont donnés par testament, suite notamment à sa mort. Donc ici, le pays promis est présenté au peuple comme un repos, comme un héritage, et nous savons maintenant, on peut appliquer ces leçons spirituelles pour notre vie, comme un cadeau d'anniversaire. Vous recevez un cadeau, mais à vous de le déballer, à vous de l'ouvrir, à vous de jouer avec. Donc autant la sortie d'Égypte, c'était vraiment Dieu qui a tout fait. Dans l'entrée du pays promis, c'est Dieu qui va combattre, qui va tout faire, mais il y a cet appel à saisir le cadeau, à saisir le repos par la foi. Ou l'image, comme j'ai dit, qui domine le livre de Josué, c'est un héritage. Vous n'avez rien fait pour mériter, mais à vous de faire les démarches avec le notaire, peut-être pour le recevoir, pour l'investir, pour en jouir. Tel notre salut en Jésus-Christ, c'est un cadeau gratuit. À nous de les saisir, de l'ouvrir, de déballer, de le mettre en pratique, d'entrer dedans pleinement. Et voilà l'appel que lance ce chapitre. Avec courage, saisissez pleinement le repos, l'héritage, le salut en Jésus-Christ. Et si nous devons l'appliquer à nos vies, oui, je dirais il faut du courage, nous aussi, pour entrer dans le salut, tout le salut et toutes ces facettes que Dieu nous offre. Saisir le salut et tout ce qui nous est offert en Christ demande du courage de nos jours, face à l'opposition, face à des idéologies qui dominent aujourd'hui telles des géants. La foi en Christ, c'est du courage. Il faut du courage pour se repentir de ses péchés. Il faut du courage pour reconnaître qu'on ne mérite rien. Il faut du courage pour aimer la vérité de nos jours. Il faut du courage, oui, pourquoi ? Il y a un verset à la fin de la Bible qui décrit le profil des personnes destinées à l'enfer. Et on mentionne des choses qui ne nous surprennent pas, peut-être. On mentionne les abominables, les meurtriers, les débauchés, les idolâtres, les menteurs. Leur part est dans les temps de feu, dit l'Apocalypse. Mais en tête de liste, quelque chose qui nous étonne, en tête de liste, il dit que ce sont des lâches et des incrédules. Des lâches et des incrédules. Comme si l'incrédulité et à ce point, on parle de lâcheté, en tout cas l'histoire du peuple devant le pays promis, et les peurs qu'ils avaient pour entrer, montrer une lâcheté. Ils ne voulaient pas croire les promesses de Dieu, ils ne voulaient pas entrer dans le repos, le salut qu'il leur accordait, qu'il promettait de leur accorder, parce qu'ils avaient peur Et je me demande des fois pour nous aussi, pour entrer dans le salut, pour croire en Jésus-Christ, est-ce que c'est à défaut d'arguments intellectuels ou est-ce que derrière il y a quand même des peurs, ou est-ce que ça nous amène des peurs, des implications dans ma vie? En tout cas, si ne soyez pas, que la lâcheté ne soit pas la raison qui vous prive du salut, du repos, de la grâce en Dieu. Donc, il faut du courage pour entrer dans le pays. Il fallait du courage pour faire face à un vie sans Moïse, un nouveau chapitre. Il faut du courage pour entrer dans le pays promis. Il va falloir aussi du courage pour obéir à Dieu une fois qu'on est entré dans le pays. D'où l'appel de ici, Josué va avoir besoin de courage pour poursuivre sans Moïse, pour combattre les géants, mais aussi pour obéir au principe de Dieu. Verset 7 dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. » Il va falloir du courage de la part de Josué pour obéir à la Bible et entraîner le peuple dans l'obéissance. Josué avait déjà eu pas mal d'expérience avec ce peuple qui n'était pas toujours enclin à l'obéissance. Donc là, fortifie-toi pour agir fidèlement selon la loi de Moïse. Il va falloir du courage pour ne pas imiter les pratiques païennes des Cananéens. Il va falloir du courage pour obéir à la lettre, à la loi de Moïse. D'ailleurs, une instruction précise qu'avait Josué, c'est qu'une fois que tu entres dans un pays promis et que tu es face au mont Ebal, tu divises le peuple en deux, tu mets la moitié du peuple sur un sommet, tu mets l'autre moitié du peuple sur l'autre sommet et vous criez l'un face à l'autre les bénédictions et les malédictions de la loi de Moïse. Je me dis, ça devait être quelque chose d'organiser ce peuple, de convaincre la moitié d'aller monter sur un sommet, convaincre l'autre moitié de monter sur un autre sommet et de crier les bénédictions et les malédictions. Voilà, il l'a fait. Pour nous aussi, il faut du courage pour obéir à la Bible. Une fois qu'on a goûté le salut gratuit en Jésus-Christ, oui, il nous amène à une vie de combat, de victoire sur le péché. Il nous invite à obéir à la Bible, à la parole de Dieu. Il faut du courage pour, encore aujourd'hui, mettre en pratique la Bible quand les pratiques non chrétiennes autour de nous peuvent nous influencer. Il faut du courage pour appeler mal ce que la Bible appelle mal et bien ce que la Bible appelle bien. Il faut du courage de nos jours pour honorer le mariage. Il faut du courage pour voilà, prendre à cœur les instructions de la Bible. Mais Josué, comme Josué, il avait besoin de courage pour obéir. Donc ça fait déjà pas mal de choses dans lesquelles pourquoi il en faut du courage pour faire face à un nouveau chapitre. Probablement il y en a un dans votre vie. Pour saisir le salut promis, probablement, voilà, encore face à un monde incrédule, il nous faut du courage pour croire en Jésus-Christ pleinement et marcher dans la foi. Il faut du courage encore aujourd'hui dans votre vie, probablement, pour mettre en pratique des instructions précises de la Bible. Donc oui, il en faut du courage. Donc c'est bien beau de dire il en faut, mais moi je veux savoir comment avoir, parce que je ne l'ai pas toujours. Donc c'est deuxième point, c'est comment avoir ce courage. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire, ok, sois courageux. À partir de maintenant, plus peur. À partir de maintenant, je vais déborder de courage. À partir de maintenant, je ne pense plus à mes peurs. C'est pas évident. Hein? Si je vous dis à tous, ne pensez pas à une girafe, vous venez de penser à une girafe. Si je vous dis, ne pensez plus à vos peurs, eh ben, vous y pensez. Donc, comment avoir ce courage? C'est-à-dire, et là, on apprend qu'en fait, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Le courage, c'est d'examiner nos peurs, de voir où est-ce que finalement mes peurs sont révélatrices de ma foi, de l'objet de ma foi. Et oui, j'ai des peurs dans ma vie. J'ai des situations concrètes qui me font peur. Il y a des géants sont réels. C'est pas juste dire, ah, les géants sont imaginaires. Il y avait vraiment des géants dans le pays. Mais c'est comparer ces géants et mettre le Dieu fidèle, le Dieu fort, en face de ces géants, en voir que ce Dieu, le Dieu que nous croyons, est plus grand que les géants. Donc, j'ai mes peurs, mais ma foi en Dieu peut me faire plus fort face à ces géants. Le courage, donc, n'est pas l'absence de peur, mais c'est le fait d'agir malgré elle. Nous apprenons aussi dans la Bible que le courage n'est pas la bravoure folle. et naïve à la Don Quichotte, juste pour se battre, pour devenir une vidéo virale sur Internet. On peut faire des choses folles, mais c'est pas vraiment le courage. Le fanatisme, comme l'ivresse et la drogue, peuvent produire un faux courage qui est destructeur. On veut toujours rappeler que le courage nous amène à des actes vertueux, pas des actes méchants. Et des fois, le courage, Jésus était rempli de courage, mais ce courage l'a rendu des fois doux et silencieux, comme un agneau. Ça, c'était courageux de sa part. Donc, le courage, c'est pas juste faire preuve d'un esprit belliqueux, mais le courage, c'est toujours avancer dans ce qui est juste, de faire ce qui est juste là, quand Dieu nous demande de le faire. Donc, comment avoir ce courage? Eh bien, tout d'abord, ce chapitre nous invite à méditer les promesses de Dieu. Le courage vient lorsqu'on médite les promesses de Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne avec Josué, en tout cas. Dieu lui rappelle la promesse, versets 3 et 4. Maintenant que t'as besoin d'une mission, une mission où il faut du courage, il le rappelle, sa promesse. Ce pays promis, on dit pays promis parce que c'était un pays que Dieu donne à Israël par promesse. Verset 3, tout lieu que foulera la plante de vin, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Verset 6, c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ce qui va donner du courage à Josué, c'est de penser constamment à cette promesse. Dieu a juré de donner ce pays. C'était une promesse qui remonte à Abraham en Genèse 12. Donc c'était une promesse très ancienne. 400 ans, ils ont eu peut-être le temps de l'oublier, mais c'est rappelé. C'est une promesse. J'ai juré à tes pères. Dieu a fait des serments, des alliances avec Abraham, Isaac et Jacob pour leur donner ce pays. Elle est très précise, cette promesse. On donne les limites du pays en verset 4. Le territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'à la flotte de Frat, tout le pays des Essiens. Donc, c'est vraiment précis comme promesse. Et c'est Dieu qui va garantir l'accomplissement de cette promesse. Ce qui n'empêche pas que Josué doit agir, que le peuple doit combattre. Et c'est souvent comme ça, les promesses de Dieu sont garanties. Et puis, c'est fort de ses promesses, nous agissons, nous croyons, nous avançons, et Dieu accomplit ses promesses en nous. Mais ce serait quand même un des grands messages de ce livre pour les générations futures, pour les premiers lecteurs et toutes les générations après, c'est de leur convaincre que Dieu tient ses promesses. Les promesses de Dieu sont fiables, il avait promis de donner ce pays à nos pères, il l'a fait. Et nous pouvons aussi, nous-mêmes, compter sur ces promesses. Les générations futures vont devoir attendre longtemps la promesse d'un Messie, la promesse d'un Sauveur, la promesse d'un Josué plus grand, mais Dieu tient ses promesses. Et pour nous, la grande promesse pour le chrétien, c'est pas un pays géographique, mais c'est l'Épître aux Hébreux dit que cette façon que Dieu a juré à Abraham nous rappelle la façon que lui, il a juré de nous donner le salut. Il a juré de nous donner le ciel, le pardon, la justice, c'est par serment, c'est par alliance qui dit aux croyants, je te promets de te sauver, je te promets de faire arriver sain et sauf au ciel dans ma présence, et je te le jure. Et avec ça, avec cette promesse, je veux dire, vous êtes les plus courageux de la planète. J'ai la promesse que Dieu va me sauver. C'est pour ça que les personnes qui sont propres justes sont très insécures. Parce que tout échec, tout critique, tout rejet, c'est comme si on leur arrache leur doudou, leur identité. Et là, c'est panique. Mais ceux qui ont la promesse de la justice parfaite de Christ, d'être revêtus de la justice parfaite de Christ, ils ont un courage et une stabilité. C'est pas tel rejet, c'est pas telle critique, c'est pas tel échec dans ma vie qui change le fait que Dieu m'a juré de me donner le salut, il a juré de me donner une justice parfaite et il a juré de me donner le ciel. Alors, je peux avancer courageusement. Donc oui, comment avoir le courage? C'est méditer les promesses de Dieu, surtout celles qu'il nous donne en Jésus-Christ. D'où l'importance de connaître et de ne pas oublier les promesses de Dieu. C'est pour ça que Jésus est appelé à méditer constamment ce livre, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On a dit qu'il faut du courage pour obéir à la parole de Dieu, donc il doit le méditer. Mais c'est aussi la méditation de celle-ci qui nous donne du courage, parce que c'est en méditant ce livre de la loi que Jésus va retomber sur les mêmes promesses que Dieu a données à Abraham, Isaac et Jacob. Il va voir les choses qu'il a dites à Moïse. Il peut saisir ces vérités en disant, voilà, Dieu a garanti de prendre soin de nous, de nous conduire dans ce pays promis. Donc en méditant cette loi, il est encouragé par les promesses de Dieu. Alors je prends quelques instants pour nous parler à tous, moi comme vous, hein. Je pense que c'est un grand défi de notre génération. Sortez votre téléphone et dites-moi quel est le temps quotidien, temps moyen d'écran quotidiennement. Est-ce que la méditation de la parole de Dieu ne pourrait pas avoir une plus grande place dans notre vie? Si votre temps moyen d'écran, je crois en moyen de nos jours, c'est un peu inquiétant. Hein? 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 15 heures, j'ai entendu récemment. Est-ce que la méditation de la parole de Dieu ne pourrait pas avoir une plus grande place? Si vous me dites j'ai pas le temps, je veux d'abord savoir votre temps moyen d'écran quand même. Et puis posez-vous la question, après des heures d'écran et de scrolling, repartez-vous avec plus de courage, plus de foi, plus de confiance? Ou est-ce que vous repartez avec plus de peur, plus d'angoisse, plus de pessimisme, plus d'inquiétude? Dites-le-moi, franchement. Bien sûr, les écrans sont... Il y a des utilités précieuses. D'ailleurs, c'est souvent sur le téléphone qu'on peut lire la Bible. Mais voilà, cet appel à la méditation de la parole, c'est pas que pour Josué, c'est pour nous tous, et c'est ça qui va nous rendre courageux. Vraiment. Donc, comment la voir? Tout d'abord, j'ai dit méditer les promesses de Dieu. Ensuite, être sûr de sa présence, bien, ça fait partie de ses promesses, mais je vais mettre l'accent sur celle-ci. Vous serez courageux si vous êtes sûr de la présence de Dieu dans votre vie. Et c'est ce qu'il dit à Josué, « Je serai avec toi, et je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Et il le répète à plusieurs fois, « J'étais avec Moïse, je serai avec toi. » Ça, c'est évidemment la clé du courage. Si Dieu était avec nous, on serait rempli de courage à tout moment. C'est comme un enfant qui est allé tout seul à quelque chose, à un entretien ou un rendez-vous. Ça fait un peu peur, mais si mon père et ma mère avec moi, c'est déjà beaucoup mieux. Mais nous avons bien plus que ça. Nous avons notre Père Céleste, nous avons Dieu. Si on était sûr que Dieu était avec nous, on serait courageux tous les jours. Alors comment savoir que Dieu est avec nous? Mais justement, au cœur du message chrétien, il y a cette garantie que Dieu peut être avec nous, il sera avec nous, par Jésus. Mieux encore que Josué, Jésus a affronté courageusement les géants du mal, de la mort, de la croix, comme nous avons chanté, il a terrassé le mal à tout jamais par la croix. Jésus a fait, c'est pour nous entraîner avec lui dans la résurrection, dans la vie, tel un conducteur, tel un leader, tel un capitaine, voilà. Il entraîne son peuple avec lui de victoire en victoire. Et à cause de ça, à cause de la mort et la résurrection, nous pouvons savoir, encore mieux que Josué le savait, nous pouvons savoir que Jésus est avec nous. Ce que l'évangile de Matthieu que nous avions étudié, on n'a pas encore vu la fin, mais c'est grâce à la résurrection que Jésus peut dire « Je suis avec vous tous les jours. » Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Jésus a été abandonné par son Père un temps sur la croix pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Et je rappelle que le Nouveau Testament applique ce verset, par exemple, au souci d'argent. C'est très concret, c'est très pratique. Dieu nous aime, il est avec nous tout le temps. Donc oui, quand il y a des soucis d'argent, on peut se dire, il est avec moi. S'il m'a donné son Fils Jésus-Christ, il va me donner tout le reste. Comme ils ont dit, il nous a délivrés de l'Égypte. Les quelques géants de Canaan, ce n'est pas un problème pour lui. Même réflexion pour nous. Il nous a réconciliés par la mort de son fils, le prix de l'essence, c'est pas un problème pour lui. Et enfin, comment la voir? Donc, méditer les promesses de Dieu, être sûr de sa présence, et enfin, vivre la solidarité fraternelle. Le chapitre termine avec ça, comme moi aussi. En fait, nous voyons ici que le courage est contagieux, la peur est contagieuse, le courage l'est aussi. Et ici, Josué est fort de cet appel, fortifie-toi, sois courageux, lève-toi, avance. Donc Josué prend ça à cœur, il se fortifie et il mobilise les troupes. Et notamment, il rappelle aux deux tribus et demie qui, eux, ils avaient déjà leur pays promis en quelque sorte, mais de l'autre côté du Jourdain. Donc eux, ils sont en quelque sorte déjà arrivés. Mais il rappelle aux hommes, Moïse vous a engagé. Vous avez votre pays, mais vous devez aider votre frère à combattre, à avancer ensemble. Donc c'est ce projet collectif d'avancer courageusement. Et son courage à Josué et se transmet à ses gens. Je pense que Moïse a été courageux, il a fait de Josué un disciple courageux. Maintenant Josué, à son tour, fait des disciples courageux. Et donc, à leur tour, son courage leur inspire et il termine verset 18. Ok, oui, on est avec toi, on fonce avec toi, on va tout obéir. Et puis à la fin, ils disent et fortifie-toi seulement et prends courage. Donc Josué les appelle au courage et eux, en retour, ils l'appellent aussi au courage. Et c'est beau de voir cet effet communautaire, fraternel, où on se mobilise ensemble au courage. C'est quelque chose que Dieu nous encourage à vivre dans nos différentes communautés, déjà dans le couple. Fortifie-toi, prends courage. On peut dire à son conjoint, et quand l'un est peut-être découragé, l'autre dit, fortifie-toi, prends courage, on avance. Ou au niveau de la famille, les parents qui peuvent encourager les enfants, et parfois c'est les enfants qui encouragent les parents. Pareil dans les églises, parfois c'est les responsables d'église qui encouragent les membres. Mais parfois, et je suis bien placé pour le dire, c'est les membres qui encouragent les responsables et qui disent « Fortifie-toi, vas-y, prends courage, hein, on est derrière toi. » C'est beau. En tout cas, soyez la personne qui sème le courage et pas la personne qui sème la peur dans les communautés où Dieu vous appelle à vivre, famille, église notamment. Et ce courage devient un projet de tout le peuple, pas que Josué, et il va la transmettre, et eux, ils vont pouvoir l'encourager, et c'est beau de voir ça. Donc comment avoir du courage? Oui, méditer les promesses de Dieu, être sûr de sa présence, et puis vivre pleinement l'Église, où nous pouvons nous encourager au courage. Alors ce matin, je vous laisse avec cette question, hein, quelle voix allez-vous écouter? Quel choix allez-vous faire? Il y a celle de la première génération qui a vu le pays promis et qui dit non, c'est impossible, trop peur, l'incrédulité, ou celle de la deuxième génération avec Josué qui ont vu le même pays, le même problème, les mêmes peurs, mais qui ont dit nous avons Dieu, on avance, on croit à ses promesses, il est avec nous, on vit par la foi. Est-ce que vous allez écouter la voix de la peur qui vous dit de placer votre confiance dans l'homme, dans ce que vous voyez, ou est-ce que vous allez écouter la voix de Dieu qui vous donne du courage? Prions pour terminer. Seigneur, merci pour cet appel répété à maintes fois dans la Bible, comme cela a été dit. Nous avons besoin de courage, nous avons besoin de force, nous avons besoin de surmonter nos peurs et nous savons que la clé se trouve en Jésus-Christ, nous regardons à lui le conducteur courageux qui est venu ici-bas, qui a affronté le mal, le péché, sans broncher, sans fléchir, et il l'a tenu courageusement jusqu'au bout et c'est son courage qui nous sauve ce matin, nous tous, moi aussi. On va te dire qu'on ne se sent pas des personnes forcément très courageuses. On se sent petit devant des problèmes de ce monde. Mais si le courage nous manque, nous voulons au moins choisir un conducteur, un leader très courageux comme Jésus qui nous entraîne dans la victoire. Et son courage peut aussi nous inspirer, nous motiver. que nous sachions vivre encore à notre époque, à notre génération, avec ce courage qui vient de la vérité, de savoir qu'on a ta vérité, que nous avons ta justice qui nous est accordée par Jésus-Christ. Que peuvent nous faire, que peuvent faire, nous faire un homme lorsque tu es avec nous, nul ne sera contre nous. Merci pour ces promesses et ces rappels, que nous puissions tous repartir encouragés. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.